Lire Romains 11, donc je vous laisse suivre dans vos Bibles. C'est un tout petit peu long, mais très intéressant, vous allez voir. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Car moi aussi je suis Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie ? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté, et ils cherchent à ôter ma vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie ? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont-elles été retranchées afin que moi je sois greffé ? Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne l'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, de même que vous avez été que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Un grand merci, Pascal. Si vous avez trouvé la lecture longue, je peux vous assurer, dans la synagogue, chaque Shabbat, c'est 3-4 chapitres de l'Ancien Testament, généralement lus en hébreu, qui ne veut pas dire que tous les participants à l'office du sabbat comprennent l'hébreu. Alors ce matin, j'aimerais traiter ce texte et d'autres textes pour vous parler de la Nouvelle Alliance. Je ne sais pas si vous avez des titres préférés pour Jésus. On voit des posters avec les différents titres de Jésus. Mais l'un qui me touche à présent, c'est que Jésus est le roi d'Israël. Dans Jean chapitre 12, quand la foule acclame Jésus, juste avant Pessah, la Pâque juive, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et la foule crie des paroles que vous chantez, nous chantons souvent, Hosanna. Hosanna en hébreu qui veut dire sauve-nous, hoshiei-nous. C'est un cri non seulement de louange, mais avant tout un cri pour le salut de Dieu. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et j'aimerais dire que Jésus est le roi d'Israël. Ça ne veut pas dire que Israël reconnaît Jésus comme son roi, mais ce n'est pas le premier ministre d'Israël qui compte, c'est le roi. Et le roi, c'est toujours Jésus. Et Israël appartient à Jésus, bien que la majorité d'Israël ne le reconnaît toujours pas comme roi. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit dans la Torah, Zacharie chapitre 9 au verset 9, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient. » Et nous, en tant que chrétiens, juifs et gentils en Christ, nous attendons le retour de ce roi d'Israël qui se passera à Jérusalem. Alors, on va voir si, côté technique, j'aimerais commencer en disant aussi que la nouvelle alliance promise par Dieu, c'est une nouvelle alliance pour Israël. Quand nous célébrons la Sainte Cène, nous célébrons les paroles de Jésus qui annoncent une nouvelle alliance par son sang. Cette nouvelle alliance promise dans l'Ancien Testament, promise à Israël. Nous avons même lu dans Romains chapitre 11 au verset 26, « Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Et là, l'apôtre Paul, cet ancien pharisien, parle de son peuple Israël. Et dans Jérémie, chapitre 31, il s'agit d'une nouvelle alliance qui est pour la maison de Juda et la maison d'Israël. Voici, et je ne lis pas tout le chapitre, mais voici l'alliance que Dieu conclut avec la maison d'Israël. Il n'y a dans ces textes aucune mention des non-juifs, aucune mention des nations. C'est uniquement dans ce texte de Jérémie une nouvelle alliance qui est promise à la nation d'Israël. Et ce que j'aimerais appuyer aujourd'hui, c'est que Dieu aime ce peuple, n'a point rejeté ce peuple, en dépit des enseignements qui ont existé dans l'Église depuis 2000 ans et qui ont existé et qui sont transmis par certaines grandes personnalités de l'Église. Je cite ici l'un que vous connaissez tous, Augustin, Saint Augustin, évêque de Hippo en Afrique du Nord, qui écrivait au début du 5e siècle, « Si les Juifs qui ont refusé de croire au Christ subsistent néanmoins, c'est que Dieu l'a voulu. Ils subsistent pour témoigner de la vérité chrétienne. » En tant que Juif, je ressens un certain condescendance. Le livre saint leur a été confié non pas pour leur propre usage de salut, mais afin qu'il le porte au service et au bénéfice des chrétiens, comme l'esclave bibliothécaire se fatigue à porter les volumes qui appartiennent à son maître. Et pourtant, la nouvelle alliance promise par Dieu est une nouvelle alliance essentiellement pour Israël. Et j'aimerais ajouter que c'est une nouvelle alliance pour Israël et les nations. Et nous avons dans l'Ancien Testament déjà des petites bribes de paroles qui nous indiquent que cette nouvelle alliance n'est non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les nations. Ésaïe chapitre 49, qui fait partie de ces textes qui parlent du serviteur de l'Éternel, du Messie promis, l'Éternel dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit jusqu'aux extrémités de la terre. » Et voilà que dans les prophètes de l'Ancien Testament, on trouve que ce Messie, ce serviteur de l'Éternel, est destiné non seulement à Israël, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. J'aime beaucoup ce passage dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, où Siméon, ce juif, ce prophète, ce vieillard, attend le salut, la rédemption d'Israël au temple à Jérusalem. Et il accueille un jour l'enfant, le bébé Jésus dans ses bras et il loue le Seigneur en lui disant « Maintenant mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant toute la terre ». Et puis il parle de Jésus comme la gloire d'Israël et lumière des nations. Gloire d'Israël, un autre titre pour Jésus, la gloire d'Israël et lumière pour les nations. Alors souvent, quand je me suis présenté dans des églises, plus il y a 20 ans, il y a 30 ans, on était surpris qu'un juif croit en Jésus. Mais il y a 2000 ans, quand l'Église a commencé, c'était le contraire. C'était évident que des Juifs croient en Jésus, mais c'était la grande surprise quand, après peut-être 10 ans, 15 ans de la vie chrétienne parmi les Juifs messianiques, l'apôtre Paul fut appelé pour aller vers les nations. Et avant que Paul soit appelé pour être l'apôtre aux nations, il y a l'histoire de la première famille païenne des nations converties à Jésus-Christ. Et vous connaissez sans doute cette histoire de Pierre qui est appelé pour aller chez la famille de Corneille. Et il est confus, il ne sait pas ce qui se passe parce que jusqu'alors il n'était jamais même entré, il n'avait jamais mis les pieds dans une maison d'un non-juif. Et voilà qu'il a une vision, et après avoir vu cette vision trois fois, il reçoit une frappe sur sa porte pour lui dire d'aller visiter un goy, un non-juif qui s'appelle Corneille. Il y va, et une fois entré dans la maison, il comprend qu'il doit annoncer l'évangile à cette famille païenne, grecque ou romain, mais une famille non-juive. Pierre n'est pas allé seul, il est allé avec d'autres amis juifs messianiques, des juifs pour Jésus, et voilà qu'il annonce l'évangile, et nous lisons dans le texte, à partir de verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'évangile de Jésus-Christ annoncé publiquement, verbalement, devant une famille et leurs amis, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis. » Alors, votre pasteur aurait pu dire, on vous appelle des juifs messianiques, comme il a dit, il aurait pu dire aussi, on vous appelle des croyants circoncis, mais c'est moins courant. Mais dans la Bible, voilà que des croyants circoncis, des juifs messianiques, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit furent aussi répandus sur les nations. Et une meilleure traduction, en fait, c'est nations plutôt que païens. Païens donnent l'impression que ce sont des non-chrétiens. Mais en fait, la distinction, c'est entre juifs et nations. Le mot grec, c'est nations. Le Saint-Esprit aussi répandu sur les nations, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. La louange de Dieu est venue aux nations. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et on voit une certaine résistance de la part de ces juifs, ces circoncis croyants en Jésus, que le don du Saint-Esprit et la bonne nouvelle de Jésus-Christ soient aussi apportés aux nations. Que le monde est à l'envers à présent quand on est surpris que des juifs croient en Jésus. Et après cela, Paul se rend à Jérusalem pour justifier son ministère parmi les païens. Et il y a une certaine résistance parmi les chefs religieux, Jacques et autres, à Jérusalem. Actes chapitre 11 au verset 1, « Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens, les nations, avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Et Pierre doit se justifier. Et au verset 18, quand les leaders de l'Église, au centre de l'Église à Jérusalem, après avoir entendu cela, ils se calment et ils glorifient Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux nations afin qu'ils aient la vie. » Et dans le Nouveau Testament, pas dans la tradition de l'Église, c'est toujours sous-entendu que ça soit tout à fait naturel qu'un juif trouve son accomplissement dans son Messie, en Jésus. Éphésiens chapitre 3 au verset 6, l'apôtre Paul qui écrit à des chrétiens à Éphèse, aujourd'hui en Turquie, « Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens, les nations, ont un même héritage, un même héritage que qui ? Qu'Israël, que les Juifs. Ils ont un même héritage, forment un même corps, et participe à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. » J'aimerais aussi souligner ce mot « participe ». Ce n'est pas un mot où les païens, les nations remplacent les Juifs, remplacent Israël. Ils participent ensemble dans la gloire de Dieu par l'Évangile de Jésus-Christ. Et ainsi l'apôtre Paul, au début de l'épître aux Romains, annonce, lui, l'apôtre aux païens, aux gentils, L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif en premier et puis du grec. Plus tard, dans l'Épître aux Romains, verset 24 du chapitre 9, Paul parle de toute l'Église, que Dieu a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Et on voit dans l'enseignement de Paul un emphase, une priorité d'aller aux Juifs en premier. Je répète ce verset de Romains chapitre 1, versets 15 et 16. Paul parle d'un vif désir d'annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. À Rome, c'était surtout des nations, des païens. Et il avait l'envie d'annoncer l'Évangile aux païens à Rome. C'était son appel en tant qu'apôtre aux païens. Et j'aimerais, entre parenthèses, dire que c'était plutôt insolite que Dieu appelle l'apôtre Paul pour être l'apôtre aux païens. L'apôtre Paul était le plus érudit de tous les apôtres. Il était ancien pharisien, fils de pharisien. Il avait été éduqué sous les pieds de Gamaliel, un des plus grands rabbins de l'époque. Ancien persécuteur des circoncis croyants, des juifs pour Jésus, il est devenu un farouche témoin et disciple et apôtre de Jésus-Christ. Et Dieu a appelé ce Paul, non pas pour aller vers les juifs religieux à Jérusalem, mais pour aller vers les nations. Et qui est-ce que Dieu a appelé pour être l'apôtre à Jérusalem? Pierre et Jacques, des pêcheurs du Galilée, considérés comme des paysans par les religieux de Jérusalem. Il y a une leçon pour nous, qu'il ne faut jamais dire, à cause de mon arrière-plan, ma culture, Dieu ne peut pas m'appeler vers d'autres qui sont totalement différents. Parfois, je me sens frustré quand des chrétiens me disent, de bonne volonté, c'est bien que toi tu sois juif messianique pour aller témoigner aux juifs, mais moi je ne peux pas parce que je ne suis pas juif. Alors je me réjouis de rencontrer des chrétiens comme René, Claudine, qui ont à cœur de témoigner aux Juifs. Il ne faut pas être un érudit pour annoncer l'Évangile de Jésus aux Juifs. Il faut avoir la conviction et l'amour du Seigneur. Rappelons-nous que quand Pierre et ses frères ont été présentés, ont été tirés, amenés au Sanhédrin pour défendre leur foi, ils étaient reconnus comme des gens sans peu, sans beaucoup d'éducation, mais avec une conviction que Jésus était le Messie, qui était inébranlable. Et voilà que Paul, l'apôtre aux païens, annonce « Je n'ai point honte de l'Évangile », verset 16 de chapitre 1 de Romains, « C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et sur ce petit texte a coulé beaucoup d'encre, parce que pour beaucoup de chrétiens, c'était pour les juifs en premier, c'est maintenant pour le grec. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Il dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il ne dit pas « était la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Il parle au temps présent. C'est le verbe « être au présent ». C'est une puissance, cet Évangile. Il y a 2000 ans, certes, mais aujourd'hui aussi, c'est la puissance de Dieu pour le salut du quiconque croit, du juif en premier, et puis aussi du grec, de ceux qui sont des nations. Et si on a tendance à penser, mais ce n'est pas une priorité historique, eh bien, regardons au chapitre 2, verset 9. Paul utilise la même expression, tribulation, angoisse, sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Et c'est clair que ce n'était pas dans le passé que c'était angoisse et tribulation pour un juif qui faisait du mal, et aujourd'hui, cette angoisse et tribulation est passée au grec. Et de la même manière, l'Évangile est toujours la puissance de Dieu pour le salut du Juif en premier. Est-ce que ça voudrait dire que tout chrétien doit aller vers les Juifs en premier? Connaissez-vous un missionnaire qui s'appelle James Hudson Taylor? Ou peut-être James Hudson Taylor. Un missionnaire anglais qui était appelé par Dieu d'aller en Chine au XIXe siècle. Un missionnaire formidable. Et ce missionnaire qui savait que l'appel de Dieu pour lui était vers les Chinois, au début de chaque année, il envoyait un petit don à une mission à Londres qui travaillait parmi les Juifs. Et avec ce petit don, il ajoutait un mot citant Romains 1, verset 16, l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut du Juif en premier. Et le directeur de cette mission parmi les Juifs faisait la même chose. En retour, il envoyait un petit mot à James Hudson Taylor avec, en citant Romains 1, 16, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut du Chinois aussi. James Hudson Taylor avait compris l'appel de Dieu pour lui, mais il avait aussi pressenti, ressenti que Dieu avait à cœur le salut des Juifs en premier. Et je dirais, et c'est peut-être subjectif, qu'en amenant, apportant l'Évangile aux Juifs, cela devient une bénédiction pour toute la terre. Parler aux Juifs qui ont rencontré le Seigneur, et beaucoup deviennent missionnaires, beaucoup deviennent évangélistes, beaucoup sont engagés pour servir le Seigneur. Vous voyez, je ne suis pas de culture chrétienne, je n'ai pas grandi dans l'Église. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, c'était net et clair, Jésus est la gloire d'Israël. Alors certaines peuvent penser, mais si Dieu dit d'aller vers les Juifs en premier, il y a un certain favoritisme. Mais pas du tout, il y a une priorité dans la pensée de la mission de l'Église d'aller aux Juifs en premier. Mais que dit l'apôtre Paul au verset 11, peut-être pour contrecarrer cette pensée que peut-être Dieu a du favoritisme, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Aux Juifs en premier pour l'Évangile, mais Dieu n'a point de favori. Et voilà, nous allons passer maintenant à Romains chapitre 11. On a une lecture de ce long chapitre et j'aimerais extraire quelques versets et souligner quelques points. Paul, au verset 13 de chapitre 11, il dit aux païens, aux nations, « En tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » Pas question qu'il était appelé en tant qu'apôtre aux Juifs. Il glorifiait, il avait de la fierté que Dieu l'avait appelé pour aller vers les nations. Mais en même temps, verset 14, il dit « Afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race », il parle de son peuple comme une race. Ce n'est pas avant tout une religion. Les Juifs, c'est une race, une descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dans l'espoir, Paul continue, d'en sauver quelques-uns. Il est réaliste. Il ne pense pas que son ministère va sauver tous les Juifs à cette époque-là. Et je souligne à cette époque. Mais Paul, appelé pour être apôtre aux païens, comment est-ce qu'il exerçait son ministère quand il parcourait les pays où il annonçait l'Évangile? Et on va suivre Paul dans quelques-uns de ses voyages missionnaires. Actes chapitre 13, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Premier voyage missionnaire de Paul. Arrivé à Salamine, qui est en Chypre, qu'est-ce qu'il fait en premier? Ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues. Et puis, de la Chypre, Paul se rend à Perge, qui est en Turquie. de Perge, ils poursuivent leur route, ils arrivent à Antioche de Pisidie en Turquie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Encore une fois, Paul va à la synagogue en premier. Alors je ne dis pas aller à la synagogue pour témoigner aux Juifs, mais aller à la rencontre des Juifs s'ils sont là où vous êtes. Et puis Paul passe à Icone, encore une ville en Turquie. Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Qu'est-ce que des Grecs font à la synagogue? Eh bien, à l'époque, le judaïsme était la seule religion qui croyait au Dieu unique, et c'était une religion prosélyte, qui cherchait des prosélytes, et beaucoup de non-juifs croyaient dans le Dieu unique, comme Corneille dans Actes chapitre 10. Et puis encore une fois, Paul, cette fois-ci au chapitre 17, il arrive à Thessalonique, et il va d'abord à la synagogue. Plus tard, chapitre 17, il va à Athènes. Et le livre des Actes termine avec Paul qui est à Rome. Il est assigné à la maison, il est arrêté, en prison si vous voulez, dans une maison. Et qu'est-ce qu'il fait dès qu'il est arrivé à Rome? Il convoque les leaders de la communauté juive pour qu'ils viennent chez lui afin qu'ils puissent annoncer l'évangile. Alors j'aimerais maintenant passer dans Romains quelques versets, deux ou trois, pour souligner ce que j'ose dire sont de mauvaises traductions, mais des mauvaises traductions qui a un effet sur la pensée historique de l'Église vis-à-vis des Juifs. Romains 11, verset 28, dans la traduction qui nous était lue, dans la traduction que j'ai ici, une très bonne traduction, second, on lit « En ce qui concerne l'Évangile, ils, c'est-à-dire les Juifs, sont ennemis à cause de vous. » Qu'est-ce que ça peut dire, vouloir dire « ennemis à cause de vous » ? Les Juifs sont ennemis à cause des chrétiens. À cause de vous, les chrétiens, nous les Juifs, nous sommes des ennemis. Alors le chrétien est censé aimer son prochain, aimer ses ennemis. Alors quel est le sens de cette parole? Eh bien, la traduction qui sera plus précise, qui est celle qui est traduite en anglais, une traduction anglaise, c'est pas à cause de vous, mais effectivement pour vous. En anglais, on dit « for your sakes », pour vous. Ils sont devenus ennemis pour vous. Et de quelle manière ennemis? Parce que par la désobéissance et la méchanceté de certains chefs religieux, à l'époque, Jésus était cloué à la croix. Ils étaient ennemis de Jésus, mais grâce à leur désobéissance, grâce à leur méchanceté, grâce à la croix de Jésus-Christ, le salut est devenu accessible pour vous, les nations. Dieu s'est servi de la méchanceté de l'homme, à l'occurrence des chefs religieux juifs, pour clouer Jésus à la croix, afin d'accomplir ce que les prophètes avaient prédit, que le Messie devait mourir, souffrir et mourir pour notre péché, afin que nous et vous, les païens, les nations, soient libérés du jugement de Dieu et pardonnés. Et voilà, en ce qui concerne l'élection, Paul continue, ils sont aimés à cause de leur père. Et j'aimerais dire, quel que soit le rejet des Juifs de Jésus, ce n'est pas pour autant que Dieu a rejeté Israël. Et pour nous, c'est un soulagement. Quelle que soit notre vie chrétienne, notre péché, Dieu est toujours là pour nous accueillir, pour nous reprendre. Il est à la portée de tous. Il n'a jamais rejeté son peuple Israël. Et au verset 29 sur l'écran, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Et Paul nous rappelle de cette irrévocabilité de Dieu dans son élection. Car quand Dieu nous a choisis en Christ, rappelons-nous les paroles de Jésus, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, je vous ai appelé afin que vous portiez du fruit qui demeure. » Jean chapitre 15. Et l'apôtre Paul rappelle tous les chrétiens, nous tous, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. La fidélité de Dieu auprès d'Israël est une rassurance pour nous en tant que chrétiens que Dieu nous lâche jamais. Nous, on peut le lâcher, mais Dieu nous a appelés, il est fidèle à son appel. Je vais passer maintenant à ce texte, encore dans Romains chapitre 11, qui parle de l'espérance pour Israël. Est-ce que vous savez combien de peuples vont tous accepter le Seigneur ? Ou quel peuple accepterait en entier le Seigneur ? Ici en Suisse, je ne sais pas combien de chrétiens engagés il y a. Si c'est 5% ou 10%. En France, peut-être 2%. En Angleterre, peut-être 3%. En Corée du Sud, peut-être 30%. Mais il y a un seul peuple pour lequel il est dit qu'un jour, ils vont se convertir tous. Romains chapitre 11, au verset 11 à 15. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ?» Tout le monde sait qu'Israël a bronché. « Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Par la croix, le salut est devenu accessible aux nations, afin qu'ils soient excités à la jalousie. » Or, si leur chute a été la richesse du monde, si la chute par les chefs religieux à Jérusalem il y a 2000 ans a porté la richesse du monde par la mort de Jésus à la croix, par sa résurrection, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? On ne peut être plus clair. Il y aura un jour, tous les Juifs vont se tourner à Jésus-Christ. Et si on a du mal à comprendre cela, à saisir ce que Paul dit, il le répète avec d'autres paroles. « Je vous le dis à vous, les nations païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. » À l'époque, ils n'avaient l'espoir que de sauver quelques-uns. Et honnêtement, dans notre ministère juif pour Jésus, je m'attends pas que tous les 10 000 juifs à Genève se convertissent d'ici la fin de l'année. Et dans notre travail missionnaire, il faut avoir foi et un certain réalisme aussi. Mais voilà que Paul continue, je glorifie mon ministère afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie ? Je suis peut-être en minorité en tant que juif dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, mais l'apôtre Paul parle d'un jour où il y aura réintégration, c'est-à-dire des Juifs qui se tournent en masse vers Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit à chacun de nous, toujours aujourd'hui, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut du Juif en premier. Paul, encore une fois, nous rappelle que Dieu n'a point abandonné Israël. Et s'il pose la question « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?», c'est bien parce que beaucoup de chrétiens, déjà à l'époque, se demandaient si Dieu avait rejeté Israël. Et bien des chrétiens posent la même question aujourd'hui, et la parole de Dieu est très claire, ça a été clair pendant 2000 ans, loin de là, Dieu n'a point rejeté son peuple. Moi aussi, dit l'apôtre Paul, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Un autre texte que l'Église a parfois pris pour indiquer, pour supposer que l'Église remplace Israël, se trouve dans les quelques mots ici, Romains 11, 17 à 21. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et ici Paul parle des branches naturelles, des Juifs qui n'ont pas obéi, qui n'ont pas suivi Jésus, et si toi qui étais un olivier sauvage, il parle aux païens convertis, aux nations, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. J'aimerais commenter sur « à leur place ». Ça donne l'impression en français que les païens convertis prennent la place des Juifs. Mais ce n'est pas ce que les paroles en grec disent dans le Nouveau Testament. C'est très clair. C'est écrit en grec « parmi eux », pas « à leur place ». Et vous voyez la différence, une petite traduction peut donner. Que les païens sont à la place des Juifs, c'est ce qu'on lit dans notre traduction. Mais dans le grec et dans la version du second 21, c'est écrit « Tu as été greffé parmi eux ». L'Église de Jésus-Christ, gentils chrétiens, juifs chrétiens qui sont un en Jésus-Christ. Je pourrais continuer, mais j'aimerais plutôt terminer avec quelques images de juifs croyants en Jésus. Giorgio est un juif italien. Son père était président de la communauté à Bologne, en Italie. Et lui, il va être baptisé d'ici un ou deux mois dans notre église à Westlake, à Nyon. Comment est-ce qu'il est venu au Seigneur? Eh bien, c'était surtout et avant tout par l'amour des frères et sœurs chrétiens. Un rappel que Jésus nous dit, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que Dieu reconnaîtra, que l'homme reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et j'aime bien dire que quand Jésus disait « Un nouveau commandement je vous donne », quel était ce nouveau commandement? Ce n'était pas « aimez-vous les uns les autres ». Aimez votre prochain comme vous-même, c'est un enseignement de l'Ancien Testament qui est cité chaque jour dans la liturgie de la synagogue. Aimez votre prochain comme vous-même. Mais ce que Jésus a donné comme nouveau commandement, c'est « comme je vous ai aimé ». Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes censés à nous aimer jusqu'à la mort. Aimer au point d'on est prêt à mourir pour son frère, sa sœur. Et les Juifs sont interpellés par ce genre d'amour des chrétiens, pas l'amour qui a accusé les Juifs à travers les siècles d'être un peuple déicide, mais l'amour du chrétien qui est prêt à sacrifier sa vie afin qu'un juif puisse connaître l'amour de Jésus-Christ. Ma femme Déborah, qui est partie avant-hier à Jérusalem, elle fait partie d'une équipe d'une centaine de nos missionnaires avec 200 chrétiens, ils sont à peu près 300, un mois d'évangélisation à Jérusalem. Alors ça ne va pas être fait comme nous le faisons à Genève, avec des t-shirts et des tracts. Déborah va faire partie d'une équipe qui va aller vers les femmes juives ultra-orthodoxes. Deux frères ici, et ce sont deux frères juifs messianiques qui ont un ministère parmi les ultra-orthodoxes. on voit qu'ils se sont fait juifs pour les juifs. Hein? Ils s'habillent comme des juifs orthodoxes pour aller vers des juifs orthodoxes. Et cette campagne sur un mois, si vous voulez prier pour cela, si vous voulez notre lettre de nouvelles, venez à la table. Mais voilà une partie de notre mission. Une autre équipe en Israël, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des juifs pieux, si on peut dire, des juifs messianiques qui sont comme les jeunes de partout. Ils aiment le Seigneur et cette équipe va partir en Inde pour toucher des Israéliens qui font des pèlerinages en Inde pour trouver la paix après qu'ils aient fait leur service militaire. Un autre couple dans notre mission, Juif pour Jésus, a un couple qui s'appelle Peter et Yarden Nasser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble insolite là ? Nasser, un nom égyptien, arabe. Peter est un arabe israélien, citoyenneté israélien. Il est un des millions d'arabes qui sont citoyens d'Israël et il est né de nouveau. Il a épousé une femme juive messianique. Il travaille pour notre mission à Haïfa, dans le nord d'Israël. Lionel et Marguerite. Lionel, c'est un juif messianique suisse qui travaille comme missionnaire avec nous à Paris. Et Marguerite est une arienne. Est-ce qu'on dit ça en français ? Une Allemande qui aime les juifs, mais elle ne peut être moins juive dans son apparence, si je peux dire. Grande, blonde, et elle a un amour pour les juifs. Et elle témoigne avec nous, avec notre mission, depuis que j'étais jeune missionnaire à Paris il y a 25 ans. Et je me rappelle d'un jour qu'une dame juive s'est arrêtée quand elle distribuait des tracts avec ce t-shirt dans la rue. Et cette vieille dame juive lui a montré son matricule des camps de concentration. Et Marguerite a dit « Je regrette ce que mon peuple, les Allemands, a fait dans le passé ». Mais grâce à votre Jésus, votre Messie, j'ai trouvé la paix avec Dieu et je sais que je suis pardonné. Ce Jésus que j'ai rencontré, c'est votre Messie. Et la dame s'est effondrée de larmes. Et Marguerite est un exemple parce qu'elle se sent libre en Christ pour annoncer l'Évangile. Et je ressens une certaine culpabilité, gêne parmi certains chrétiens pour annoncer clairement et librement l'Évangile. Si vous voulez sortir dans la rue avec nous à Genève ou à Zurich, voilà l'équipe à Zurich. On est quelques juifs messianiques, 3 ou 4, mais le reste des chrétiens là pour la plupart des germanophones, mais aussi des francophones et des anglophones comme moi qui ne parlent pas d'allemand. Bernard, un juif qu'on a rencontré dans la rue à Zurich, un juif dont les parents étaient nés à Thessalonique, en Grèce, déporté à Auschwitz, survécu. Bernard, né en Belgique, professeur d'université en Suisse, et dans la rue, il a vu nos t-shirts, et il y a 4 ans de cela, on est toujours en contact avec Bernard, il vient à nos réunions ponctuellement, mais il ne croit même pas en Dieu. Et voilà pour finir, dernier diapo, et ce diapo, c'est un test pour vous. C'est une épreuve pour voir qui d'entre vous sont appelés pour aller vers les Juifs. L'un des messieurs là est un Juif, un rabbin, et l'autre est un pasteur. Et c'est après une visite à la synagogue, le rabbin nous ramenait à la gare, je suis rendu compte que les deux, on pourrait les prendre pour des frères, les deux pour des rabbins ou les deux pour des pasteurs. Mais j'aimerais vous demander, poser la question, quel est le rabbin ? Est-ce que le rabbin, c'est celui à votre gauche ? Levez la main. Ok, levez la main si vous pensez le rabbin est à votre gauche. Ok, baissez la main. Si vous pensez le rabbin est à droite, levez la main. Ok, un peu plus qui lève la main. Si vous n'avez pas levé la main, levez la main. Voilà, c'était à peu près un tiers, un tiers, un tiers. En fait, le rabbin est à votre gauche. Et c'est un rabbin qui m'a appelé il y a quelques années de cela. Il habite près de Zurich et bien qu'il soit rabbin orthodoxe, très orthodoxe, bien qu'il ait grandi dans des milieux très orthodoxes, il se pose des questions sur Dieu. Il veut une rencontre avec Dieu, il va plutôt vers le nouvel âge, mais il est plein de questions. Et rappelons-nous, pour terminer, les paroles que Jésus a dit à Nicodème, un des plus grands rabbins de l'époque. « À moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut entrer le royaume de Dieu. » Je vais prier. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, que tu es venu comme la gloire d'Israël et la lumière des nations. Merci, Seigneur Jésus, que tu es venu pour détruire, anéantir le mur de séparation entre Juifs et nations. Et c'est en toi, Jésus-Christ, que nous sommes un. Merci, Seigneur, que ton nom propre, Yeshua, veut dire salut, le salut de Dieu. Et merci, Seigneur, qu'en toi, nous avons le salut de Dieu. Seigneur, nous voulons aussi prier les uns pour les autres, que tu nous donnes la hardiesse, le courage dans notre faiblesse d'annoncer l'Évangile aux Juifs en premier et aussi aux nations. Seigneur, tu nous as appelés pour être des porte-paroles, des ambassadeurs. Seigneur, dans notre timidité, notre crainte, Seigneur, que nous puissions annoncer l'Évangile de Jésus. Parce que ce n'est pas nous qui sommes puissants, mais c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen.